RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules qui sont avec vous tous les jours, bien évidemment au 32-16. Tout à l'heure, nous serons avec François Ruffin. Et il sort une bande dessinée aux éditions Les Arènes. Il appelle ça Picardie Splendor. Picardie, c'est son département, c'est sa région. Ce qu'il veut, François Ruffin, à travers différentes planches de bande dessinée, différentes petites aventures, c'est se raconter. Raconter sa Picardie, raconter la diversité de la France, raconter, vous savez, c'est toujours son combat, les difficultés aussi, le travail des invisibles, il en parle souvent, c'est pour eux qu'il veut être candidat. Et donc François Ruffin sera avec nous tout à l'heure à 11h dans les GG, dans les grandes gueules. En attendant, c'est la deuxième heure des GG, de quoi va-t-on parler ? Tout à l'heure à 11h-27, petite note confidentielle qui embarrasse Raphaël Glucksmann dans sa candidature vers l'Élysée. C'est une note confidentielle d'une partie de son équipe de campagne dans laquelle, en fait, il cible le public qu'il doit conquérir, ses électeurs. Alors, il parle du public âgé, diplômé. Les 18-25 ans, les CSP+, etc., ceux qui gagnent tant. Est-ce que c'est une erreur de la part de Raphaël Glucksmann ? On en parlera tout à l'heure. On parlera du chômage, de l'immobilier, de l'inflation, de l'énergie. Tous ces indicateurs sont dans le rouge. Merci Macron, ça c'est à 10h20. D'abord, on va s'intéresser au match Bardella-Mbappé.
Je crois que Louis est derrière tout ça.
Tout est parti d'un entretien accordé par Kylian Mbappé au célèbre magazine Vanity Fair.
Oui, où Mbappé, une nouvelle fois, s'engage politiquement. D'ailleurs, il le justifie, il dit « Je ne vais pas me taire parce que je suis footballeur. Les gens pensent parfois que parce que tu as de l'argent, parce que tu es célèbre, ces problèmes ne te touchent pas. Mais cela me touche parce que je sais que ce que signifie et je sais ce qui peut arriver à mon pays si ces gens-là prennent le pouvoir. » Il parle de qui ? Il parle de l'extrême droite, il parle du Rassemblement National. Jordan Bardella a immédiatement répondu sur son compte X à l'attaquant de l'équipe de France. Et moi, je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG. Le club gagne la Ligue des Champions et peut-être bientôt une deuxième fois. C'est pas la première fois qu'on assiste à une passe d'armes entre Bardella et Mbappé. Souvenez-vous, Mbappé s'était également engagé politiquement lors des dernières législatives. Alors, est-ce que c'est son rôle ? Est-ce qu'il a raison ? Notre joueur français qui évolue au Real Madrid, Bardella a-t-il raison également de lui répondre ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, Charles.
Oh, écoutez, honnêtement, je trouve que c'est un combat de gamin immature qui m'intéresse pas beaucoup, pour être très honnête.
Y en a un, c'est quand même le favori à l'élection présidentielle, et l'autre, c'est l'un des sportifs les plus connus du monde, si ce n'est le préféré des Français.
Ce qu'ils disent est entendu.
Donc, il y a un impact dans leur prise de parole.
Ouais, le favori à l'élection présidentielle, pour moi, c'est un problème pour le pays qu'il soit dans cette situation.
Ça, c'est autre chose.
À 12 ans et demi, je suis désolé. Je trouve ça ridicule pour la France. Et Mbappé, je ne regarde pas le foot. Donc, honnêtement, j'étais pas au courant de ce clash au sommet. Et j'avoue que, comme disait, je reprendrai pas les termes du président Chirac.
Sans te faire bouger.
Mais voilà, ça me passionne pas.
Laura.
Oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que quand j'ai lu le tweet de Jordan Bardella, ma première réaction, ça a été de rire. Mais après, je me suis dit, est-ce que c'est le rôle d'un homme présidentiable de me faire rire et de rentrer dans ce jeu-là ?
Il n'aurait pas dû répondre à Kylian Mbappé ?
Le silence est le meilleur des mépris. Là, on ne fait qu'alimenter un truc. Je suis complètement d'accord avec Charles sur le fait que c'est un truc de gamin, de ce ping-pong de tweets, quoi.
Mbappé, il est sur le fond, il n'est pas sur la gaminerie. Parce que Mbappé, il dit déjà...
Non, je parle justement de la réponse de M. Bardella.
Oui, mais Bardella, il répond pas sur le fond. Il préfère faire de l'humour. Mais Mbappé, il répond déjà à ceux qui disent les sportifs doivent fermer leur gueule parce que quand tu es riche, célèbre, finalement, tu dois pas donner ton
ça,
avis.
Je suis d'accord avec lui.
Donc
lui,
il dit, non, j'ai envie de le dire. Souviens-toi, en fait, ça a commencé avec l'affaire Naël où Mbappé dit petit ange, et à l'époque, ça déclenche une polémique.
Mbappé, quand il prend la parole,
pardon, ça a plus d'impact.
Non, mais on est encore
c'est un sous-ministre.
On est sur la liberté d'expression. Voilà, Monsieur Mbappé n'est pas un sous-citoyen ou un sur-citoyen. Il a les mêmes droits civiques que tout le monde. S'il a envie de s'exprimer, bien qu'il le fasse. En revanche, j'estime que Monsieur Bardella doit avoir une posture présidentielle et ne pas répondre à ce genre de choses, surtout par un tweet rigolo.
D'abord, j'estime que Kylian Mbappé a le droit de donner son avis. C'est un citoyen français qui paie beaucoup d'impôts, qui crée beaucoup de richesses dans le pays, sûrement plus que le jeune Jordan Bardella.
Il est à Madrid, maintenant.
Là, il paie ses impôts surtout à Madrid.
Je peux dire qu'il en a payé déjà en France plus que nous, on va en payer toute notre vie. Donc ça, déjà, c'est fait.
En même temps, il paye plus de richesses. Aussi. Ouais.
Oui, mais bon, il paye beaucoup d'impôts.
Non, mais c'est pas
Donc, à ce titre, il a quand même le droit de donner son avis un pays où il contribue financièrement au développement du pays.
Il devrait d'ailleurs avoir une voix qui compte plus.
Il devrait avoir deux voix. Ensuite, je suis aussi d'accord avec Laura. Je pense que Jordan Bardella, s'il veut s'installer dans la posture d'un président, il faut qu'il apprenne à prendre des coups sans répondre. Il est au-dessus. Il doit se mettre au-dessus de ce genre de choses. Et on n'est pas dans une cour de récré. Après, moi, j'ai envie de répondre au tweet de Jordan Bardella par rapport à son tweet, qui est sûrement pas de lui, qui est pas mal, mais j'ai envie de lui répondre en disant, on sait aussi ce qui arrive quand les Arabes rachètent un club de football, ils gagnent la Coupe d'Europe. Et on sait aussi ce qui arrive quand un Arabe rachète un club de rugby, ils gagnent aussi la Coupe d'Europe. Voilà, c'est ce que j'ai envie de lui répondre à Jordan Bardella, sur son tweet.
La réponse de Bardella, moi, je la trouve assez maligne parce qu'il répond pas sur le fond. C'est-à-dire qu'il veut pas enclencher une polémique sur le fond avec Mbappé, donc il fait de l'humour. D'ailleurs, elle est pas mauvaise. Non, mais sa vanne, elle est pas mauvaise.
C'est pas mal, mais je sais pas si c'est de lui,
Peu importe. Mais la vanne est pas mauvaise. Et puis, je trouve que c'est très dans l'air du temps parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il faut faire effectivement des réponses courtes et des punchlines de second degré. C'est ça qui marche.
Mais trop dans l'air du temps.
Je pense que pour gagner l'élection présidentielle, faut mieux être dans l'air du temps que d'être
Je trouve ringard, c'est ces petits jeux de petits tweets.
T'es pas du niveau d'un candidat à la présidentielle.
Je réponds ça, puis comme ça, je me mets à ton niveau, C'est ça que je trouve ringard. Je trouve qu'il est déjà ringard en réalité, Bardella.
Enfin, tu vas pas lui reprocher de faire ce que font tous les candidats et toutes les personnalités politiques. Ils sont tous sur Twitter.
Vous me demandez ce que j'en pense.
Je trouve ça beau.
J'ai le droit.
Pas plus que Jordan Bardella. Tous les autres, ça va être qu'ils se répondent sur Twitter.
Il est pas dans la victime. Il fait une vanne. Il se moque de lui.
Je suis désolé, il y a d'autres hommes politiques qui font pas des petits tweets à la con, des petites vidéos TikTok à la con, qui sont pas là-dedans. Et on a le droit aussi d'apprécier ça, si tu veux. Moi, cette culture du vide et du buzz vide, je suis désolé, je trouve pas ça à la hauteur d'un pays comme le nôtre.
Je suis complètement d'accord.
Voilà, je trouve que ça renforce le côté personnage en carton du jeune Bardella.
On a Amadou qui veut intervenir dans la discussion, Amadou commercial dans la Marne, fidèle des GG. Bonjour Amadou.
Oui, bonjour l'équipe. Par contre, je vais pas rester longtemps parce que de toute façon, j'attends mon train, il est en retard.
Si vous attendez le train, vous allez gagner.
Allez-y.
Non, mais il n'y a pas de souci. C'est encore un coup de Bruno Poncet, ça, c'est sûr. Ça.
Allez-y, Amadou, qu'est-ce que vous pensez du match Bardella-Mbappé, alors?
En fait, moi, je suis pro-Mbappé, même si je suis supporter du Barça, il faut dire la vérité. Je pense que Mbappé, il a raison. Déjà, moi, entre quelqu'un qui paye des millions d'euros d'impôts à la France et quelqu'un qui vit d'argent public, moi, je choisis la personne qui paye des millions d'euros d'impôts à la France. Je te rappelle que Mbappé, il a payé des millions d'euros quand il joue au PSG. Je rappelle aussi que Mbappé.
Et c'est des centaines d'emplois aussi, hein.
Toutes ces primes, Mbappé joue pour zéro en équipe de France. Hein. Toutes ces primes de l'équipe de France, elles sont reversées. Hein. Il perd de l'argent en venant jouer pour le maillot de l'équipe de France en jouant pour son pays.
Toutes les primes au Parlement européen sont reversées aussi.
Exactement, sur ses formations en média trading. Donc en fait,
l'équipe de France, ça lui rapporte aussi en termes d'image. Ne soyons pas naïfs, Amadou.
Mais il est quand même pas obligé de faire ce qu'il fait.
Allez-y, Amadou.
Il a le droit de donner son avis comme nous.
Voilà, exactement. Moi, je pense que c'est un citoyen comme tout le monde. Il donne son avis. On a le droit de le critiquer aussi. On peut être d'accord, on peut pas d'accord. Mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'en ai marre des donneurs de leçons qui nous expliquent que, oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut combattre l'extrême droite. Oui, mais c'est pas comme ça. Non, chacun fait ce qu'il veut. Mbappé, c'est un citoyen, il donne son avis, Bardella, il lui a répondu, ouais. Tant mieux pour lui. Il lui a répondu.
Mais il n'a pas à lui répondre. En
fait, si, c'est une personne publique, quand tu te mets au-dessus.
Quand tu es une personne publique, tu sais qu'il y a des gens qui vont t'aimer, des gens qui ne vont pas t'aimer.
Votre raisonnement, c'est Mbappé a droit de parler et Bardella ne doit pas répondre, je comprends.
Alors il va répondre à 40 millions de Français qui ne sont pas d'accord.
40 millions de Français, puisque Mbappé, tu l'as même toi dit, c'est quand même un leader d'opinion, Mbappé. Mbappé, il est plus.
Tu l'as même toi dit.
Tu l'as dit toi-même.
Tu l'as dit.
C'est un leader d'opinion, Mbappé. Il est plus écouté et plus lu que la classe politique quasiment dans son ensemble.
C'est 130 millions de followers sur Instagram.
Il y a
quelqu'un
de nos trois qui a dit que j'allais dire Jordan. Maintenant, tu m'as matrixé.
C'est Jordan de Bourbon.
Il y a personne qui dit que Jordan Bardella n'a pas le droit de répondre. Effectivement, qu'il a le droit de répondre.
Mais c'est pas son niveau.
J'ai pas envie de voir peut-être mon futur président s'abaisser à des ping-pong Twitter. C'est tout.
Oui, mais sauf qu'il attaque son parti et il est président d'un parti.
Et
il dit
prouve.
Vous êtes un danger pour la France, c'est ce qu'il lui dit, quoi. Tu vois,
oui, mais regarde.
Elle est sévère, l'attaque.
Moi, regarde, personnellement, monsieur Mbappé.
En plus, il dit ces gens-là, on sait ce qui arrive avec ces gens-là. Donc,
monsieur
quand il
Mbappé
dit ces gens-là, ça sous-entend, si tu veux, ça. Grosso modo, c'est les nazis. C'est ça que ça sous-entend
mais
de la part
regarde,
de Kylian Mbappé.
J'apprécie vraiment pas monsieur Mbappé, c'est vraiment pas une personnalité publique qui me fait rêver, que j'apprécie, je le trouve hautain, etc. Enfin, c'est pas quelqu'un que j'apprécie, mais pour autant. Il a tout à fait le droit de donner son opinion. Je ne vais pas l'écouter parce que je suis un contre-fou, mais il a le droit de donner son opinion.
Et on n'a pas le droit de lui répondre, hein. C'est ça, je ne comprends pas.
Mais est-ce que tu as entendu dans mes paroles.
Mais si
tu
as dit que Jordan Bardella ne devrait pas répondre. Alors,
Il le remplace fiscalement ou sur un terrain de foot, ça serait la meilleure des réponses.
On a Fred qui veut réagir aussi, Fred, qui est du côté de Paris. Et votre train est arrivé, Amadou, ou pas encore?
Non,
t'as eu le temps. Il vient d'arriver.
Bon voyage, Amadou. À bientôt dans les GG. Salut, Amadou.
2 heures de retard.
Bonne journée. Et on a Fred, donc, de Paris 6e. Bonjour, Fred.
C'est un Parisien.
J'adore le 6e.
Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous, Fred?
Alors, je vais répéter les choses qui ont déjà été dites, à savoir que tout citoyen français a le droit d'exprimer ses opinions. Ça, c'est pas un problème. Bardella, il a aussi le droit de répondre. Maintenant, moi, je trouve que sa réponse, elle n'est pas du tout au niveau où il devrait être. C'est quelqu'un qui est candidat à la présidence de la République et répond comme il le fait. Monsieur Pouchot a dit oui, il est malin parce qu'il répond pas sur le fond. Eh ben non, justement, dans sa position, dans sa posture, dans ce qu'il veut incarner.
Et répondre sur le fond, pardon, Fred, ça ne changeait strictement rien à ce que pensera Kylian Mbappé. C'est pour ça qu'il lui met une petite vanne.
En plus, bien placée, parce que quand même, je te pose la question de savoir pourquoi Mbappé a quitté le PSG.
Allez-y, Fred.
Mais c'est là où justement, je suis pas d'accord, parce que comparé à un destin politique que Monsieur Bardella a un destin de sportif et des aléas du sport.
Qui a gagné la Coupe du Monde.
Ça n'a aucun sens, en fait, de dire qu'il n'a pas gagné avec le PSG, oui. Mais bon, il y a plein de facteurs qui font qu'il n'a pas pu gagner avec le PSG. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être élu ou pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que là où il n'est pas très malin, je trouve, Bardella, c'est que, en fait, quand il fait cette réponse, il faut comprendre que ce n'est pas Mbappé qui répond. Parce que Mbappé, il ne changera pas d'opinion, comme vous dites. C'est au contraire, c'est une façon de montrer, lui, ce qu'il pense et comment il gère ce genre de situation. C'est plutôt une réponse aux Français qui voient ce message. Et là, en s'attaquant personnellement à Mbappé, je trouve que voilà, il a montré qu'il n'était pas très mature et très intelligent dans sa communication.
Ok, Fred. On va voir ce qu'en dit Frédéric, qui lui est du côté de l'Ain à Pont-de-Vaux. Bonjour, Frédéric.
Bonjour, Alain.
Bonjour. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Frédéric? À qui vous donnez raison? À Mbappé, à Bardella, dites-moi.
En fait, donner raison, ni à l'un ni à l'autre, même si c'est vrai qu'aux dernières élections, j'ai voté Rassemblement National, je trouve que Kylian Mbappé, aux dernières élections, déjà, il l'avait un petit peu, on va dire, un peu trop ouvert à mon goût.
Zidane aussi,
oui,
hein.
Oui, attention, les extrêmes patati, mais quand on est un privilégié à 30 millions d'euros par mois, et j'arrondis la facture, ce qu'il a piqué au Paris Saint-Germain, il ferait bien, de temps en temps, de faire profil bas, un peu comme avait fait Antoine Griezmann aux élections européennes, qui avait dit « peu importe qui les Français votent », il faudra assumer leur choix de toute façon, de toutes les manières à la fin. Et Mbappé devrait plutôt dire ça. Et Bardella a eu raison, moi je trouve, de lui envoyer la petite pique. Moi ça m'a beaucoup fait rigoler quand j'ai vu que il avait, en disant qu'ils vont peut-être gagner deux fois la Ligue des Champions, on voit quand même que, malheureusement pour lui, au moment où il s'est tiré, Paris a gagné la C1, donc ça après c'est limite pas le fond. Moi j'ai trouvé Bardella très drôle, voilà, j'ai trouvé
en même temps, là-dessus. C'est stupide, le football c'est un sport collectif. et on peut pas attribuer, mais alors ça je sais que c'est le fonds de commerce du Rassemblement National, on peut pas attribuer la responsabilité à une personne. C'est un collectif qui perd et c'est un collectif qui gagne.
C'est rappeler que Mbappé a quitté le PSG pour gagner des champions et que depuis qu'il a quitté le PSG gagne des champions.
Vous avez été président du rugby club toulonnais, qui était une des plus grandes équipes du top 14.
Pourquoi l'une ?
Eh ben, je veux dire, pourtant je suis électeur du Rassemblement National, mais le votre Toulon, j'ai adoré le regarder.
J'en remercie et j'en doute pas.
Il y avait des joueurs de classe mondiale. Moi, il y avait un joueur que j'adorais dans votre équipe, c'était Johnny Wilkinson.
Ouais.
Et donc, je suis désolé, mais Johnny Bigood, il a jamais dit, attention, telle personne est nocive. Attends, il s'est concentré. Enfin,
Johnny Bigood, vous dites, entre Johnny Wilkinson et Kylian Mbappé, il y avait une différence essentielle. C'est que Johnny Wilkinson est un sujet et Kylian Mbappé est un citoyen. Dire que, donc, oui, il y avait le droit à un sujet, sujet britannique. Donc, Kylian Mbappé,
en France, le problème, c'est que dès qu'on touche à Kylian Mbappé, on est l'ennemi public numéro un.
Mais non, Frédéric, j'entendais pas vraiment ce qu'on a dit.
Ce qu'on fait comprendre, c'est que Mbappé, il donne des consignes de vote, ce qui est très bien pour lui, hein. Mais il devrait mettre de l'eau dans son vin. Ça veut dire qu'il devrait dire, attention, ces personnes sont dangereuses, mais après, si vous voulez voter pour elles, vous
la question, non mais la question que pose Frédéric, c'est plus large, c'est-à-dire est-ce que les sportifs du niveau d'Mbappé, des gens qui ont énormément
contribuables, voilà, les citoyens français,
ont raison de donner des consignes de vote, etc. Est-ce qu'ils sont bien placés pour le faire? Est-ce que c'est entendable? C'est ça la question.
Est-ce que c'est le rôle d'un candidat à l'élection présidentielle de ne pas être au-dessus de ça, quoi?
Non, mais la question, c'est pas ça qu'il pose. Lui, il dit Mbappé, est-ce qu'un Mbappé,
il a le droit,
un autre,
bien sûr.
Est-ce que c'est leur rôle?
Mais peu importe, parce qu'on est tous le riche de quelqu'un. Je trouve cet argument qui est pour moi n'est pas acceptable. Je veux dire, nous,
Mbappé, le riche d'un peu plus de monde.
Oui, mais bien sûr.
Oui, il est un peu au-dessus. Oui,
mais regarde, si autour de cette table, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont un niveau très aisé que des gens qui sont plus proches du SMIC.
Mais pardon, mais Laura, tu fais partie des gens.
Oui, mais c'est pas un gros mot d'avoir son pognon, il le gagne, quoi. Il a pas fait un braquage.
Il est plus proche d'Mbappé que de nous.
Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça que tu n'as pas le droit de commenter.
Non, mais c'est pas une question de richesse.
C'est ce que Frédéric disait. Il a pas à parler. Il a pas donné de
conseils. Dans l'utilisation du budget de la France par le Front National ou par un autre, il y aura plus d'argent à Mbappé qu'à moi.
Mais la question,
donc il y a quand même le droit de donner son avis.
Je suis d'accord avec ça. Donc
non, la question, par exemple, tu seras la première à dire, j'en ai marre d'entendre ces acteurs et ces actrices qui donnent des leçons à la terre entière.
Mais j'en ai
parce
marre.
Qu'ils sont hors sol.
Mais j'en ai marre.
La question se pose avec Mbappé. Est-ce que Mbappé, qui vit dans un monde
qui est sur une planète,
est-ce qu'il est bien placé pour donner des leçons?
Ça me saoule que tout le monde y mette son grain de sel. C'est pas pour ça qu'il a pas le droit.
C'est potentiellement contre-productif, hein. Prise de parole. Regarde, par exemple, ce que tu dis sur les acteurs.
Ah oui.
T'as qu'une envie, c'est de, quand tu les entends au César chouiner, sur ceci et cela, t'as qu'une envie, c'est de voter contre eux. Enfin, en tout cas, choisir le vote qu'ils ne veulent pas.
Charles, mais si tu enlèves dans la création, de la culture française, la lutte contre l'extrême droite, je pense que tu as beaucoup de choses qui vont disparaître. Ça fait partie de l'essence de la création de la chanson française. Je suis désolé, mais si des Brassens, si des Brel ou si d'autres étaient en vie,
ils
prendraient position.
Brel, il n'a jamais pris position politique.
Écoute ses interviews. Non. Voilà, ça fait partie de la création. Quand Louis Chédid, il écrit une chanson magnifique qui s'appelle Anne Masseran, c'est une façon de prendre position.
Oui, mais je pense que c'est mieux comme ça.
Renaud, quand il écrit à Les Fachos, c'est une façon de prendre position. Mbappé, il chante pas, il le fait par Twitter.
Je me demande si ça donne pas envie aux gens qui ne gagnent pas la même chose que Alain Souchon et compagnie de voter différemment.
En gros, c'est pas efficace, c'est ce que tu dis.
Tu vois?
Kylian Mbappé, il est capitaine de l'équipe de France. Donc, quand il met le maillot bleu, il représente tous les Français. Mmh. Et c'est-à-dire tous ceux qui viennent l'applaudir dans le stade. Je pense qu'il y a les opinions les plus variées aussi. Peut-être que quand tu es capitaine de l'équipe de France.
Mais c'est pas en tant que capitaine de l'équipe de France qu'il a pris position.
C'est Kylian Mbappé.
Moi, j'étais président d'un club de rugby, j'ai pris des positions, mais à titre personnel. J'ai toujours dit que ça n'engageait pas mon club, ça engageait moi.
Il ne représentait pas les Français. Là, dans un mois, il est en équipe de France.
Et il devrait
faire pour tous les Français.
Le jeune Jordan, il devrait faire attention parce que peut-être que dans un mois, Mbappé nous ramène la Coupe du Monde et ça sera une idole absolue.
Merci, Frédéric.
Il va faire rire.
Alors, Mbappé, je souhaite,
non pas pour Jordan, mais pour la France, qu'on gagne la Coupe du Monde.
Qui a gagné le match?
Everybody.
On va regarder. Pour vous, c'est Bardella. Ouh, 91%, c'est Bardella qui a gagné le match.
Bah, c'est le seul qui gagnera au foot contre Mbappé.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules. Chômage dans le rouge, immobilier dans le rouge, inflation dans le rouge, énergie dans le rouge. Est-ce que c'est le grand décrochage français? Merci Macron. 32-16 pour en parler avec les GG, il est 10h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, Laurent Barton, Martinez, sophrologue, Charles Consigny, avocat. Nous sommes avec Mourad Boudjelal, chef d'entreprise. Il est éditeur de bande dessinée. On va regarder les indicateurs économiques avec vous, bien sûr, au 32-16, en direct sur RMC, RMC Story. Ces indicateurs économiques, ils sont très récents. Le chômage, on l'a appris ce matin, il est remonté à plus 0,8%. Oh. Pour en donner un autre, les ventes de logements neufs sont à un plus bas niveau historique. Et ce n'est pas tout hein, quand on regarde.
Oui, alors l'inflation par exemple, confirmée à 2,2% ce matin, le chômage, je en parlais, il est au plus haut depuis 5 ans. Hein. Donc en fait, on était sur un bilan, notamment sur la baisse du chômage,
mais qui
était plus positif pour Emmanuel Macron, et c'est vrai que malheureusement il va finir son deuxième quinquennat avec un chômage plus haut qui remonte, donc ça va être compliqué. L'inflation, c'est quand même lié à ce qui se passe à Hormuz et cette guerre au Moyen-Orient, donc ça, on peut imaginer que c'est conjoncturel et que ça pourrait rebaisser si la guerre s'arrête. Sur l'immobilier, on en a souvent parlé ici, c'est quand même l'un des plus grands échecs sans doute de la période Macron, c'est-à-dire que l'immobilier s'est effondré.
Foncière ISF
avec des choix,
IFI,
taxes foncières, etc. Enfin, il y a eu une série de choix qui ont, on va dire, plombé totalement ce secteur. Donc, c'est vrai que Emmanuel Macron, qui pouvait encore se targuer d'avoir des bons résultats économiques, va peut-être quitter l'Élysée en n'ayant aucun résultat.
Mais là, il peut pas. Enfin, c'est la seule chose qu'il avait pour se raccrocher, c'était justement le chômage. Et c'est pas fini. Là, je suis allée regarder l'indicateur. J'aime bien regarder cet indicateur-là, l'indicateur de l'INSEE du climat des affaires. C'est un peu, si vous voulez, le thermomètre des corps humains et pour les affaires. Donc, en janvier, on était à 97. Alors, 100, c'est la normale. 97, c'est à peu près un 37,5. On commence à être.
Oui, voilà.
Bon, bah là, ça y est, on est à 38,5. On est à 94 et ils annoncent minimum 2 points. De perte encore. Là, c'était à avril et là, ils annoncent encore 2 points de perte pour mai. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Oui, je suis d'accord avec toi, le détroit d'Hormuz, la guerre, fait qu'il y a une inflation. Mais comment elle a été gérée? On a encore une baisse là. Donc, on a eu 300 millions en plus de surcoût de la dette du fait de l'instabilité et de l'instabilité gouvernementale de notre pays. Donc, c'est-à-dire que tout le monde a peur de nous et de ce qu'on est capable de faire.
La dissolution est une responsabilité présidentielle.
Exactement. On en est là aussi pour...
C'est pas Donald Trump.
Exactement. Donc, il faut arrêter de tout mettre sur le dos de la guerre en Iran. À un moment donné, je le répète, là, on en est à moins 170 millions de taxes, enfin de rentrées financières. Au final, le bilan par rapport au carburant. Il me semble quand même que au final, tout le monde est lésé. C'est-à-dire que les gens ne consomment plus et le gouvernement n'a plus de rentrée d'argent. Donc, on en est exactement au point que j'avais énoncé dès le départ. Il me semble que si M. Lecornu avait enlevé quelques taxes ou diminué quelques taxes sur le carburant, les gens auraient pu continuer de consommer, non pas du carburant, mais de consommer tout court, et qu'il y aurait eu des retraites fiscales. Au final, qu'est-ce qu'on constate? Que les gens, là, pour un week-end de 5 jours qui va arriver, si on pose son vendredi, les gens ne vont pas partir.
Ouais, ça va pas beaucoup.
Les gens ne vont pas consommer. Les gens ne vont même pas aller au cinéma. Dans des parcs d'attractions, les gens vont rester chez eux. Donc, il est en train, enfin, avec ce côté statique de ne surtout pas bouger et d'attendre que la catastrophe passe, c'est eux qui sont en train de mettre le pays à feu et à sang. Faut arrêter de remettre la faute sur l'Ukraine, le Covid, le ci, le là, le détroit d'Hormuz.
Sachant qu'ils ne peuvent pas bouger puisque jusqu'à l'année prochaine, on aura cette assemblée sans majorité de conseil qui ne va rien se passer.
Donc, à un moment donné, la dette qui enfin, les le intérêts de la dette qui explosent, c'est de leur faute. Le logement qui explose, c'est de leur faute. Le fait que le chômage explose, c'est de leur faute. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils fassent un mea culpa.
Mourad, est-ce que tu es un pessimiste pour la situation économique de la France dans les mois qui viennent?
Je suis pessimiste et réaliste. On ne peut être que pessimiste par les choix qui ont été faits et qui seront faits demain. Aujourd'hui, on a un gouvernement dont la priorité est le budget de l'État, avant le budget des Français. C'est-à-dire qu'il y a des gabegies incroyables dans le budget de l'État. Il y a des conneries qu'on pourrait éliminer. Et aujourd'hui, l'État... Comme il fait passer son budget en priorité, il crée de la taxe. Il crée de la taxe parce que son budget est prioritaire. Malgré toutes les conneries qu'il y a dans ce budget, on donne le budget de l'État à 10 contrôleurs de gestion du privé, ça sera vite réglé. Voilà, ils n'auront pas fait l'ENA, mais ça sera très vite réglé. La priorité aujourd'hui, c'est le bien-être des Français, c'est le budget des Français. Je l'ai dit et je le répète, quand les Français vont bien, dans leur pouvoir d'achat, le budget de l'État va bien, puisque les Français créent des richesses. Ils prennent le problème à l'envers, en priorisant le budget de l'État avant le bien-être des Français. Il faut avoir quelqu'un qui a les coronesses de modifier notre système. Un, c'est faire un grand emprunt d'État pour que la dette que nous avons avec des intérêts, je rappelle quand même que les intérêts, c'est depuis 93, hein, qu'avant on empruntait à zéro et que bon.
Oui, puis là, depuis 2025,
on a décidé que les États devaient payer des intérêts sur leurs emprunts, alors que c'était pour le bien-être des gens. Bon. Un grand emprunt d'État pour que la dette soit auprès des Français, pour que les intérêts de la dette soient versés aux Français, plutôt qu'à des fonds de pension en Floride ou des fonds de pension on ne sait pas où. Ça serait une première chose, de façon à donner du pouvoir d'achat aux Français à travers la dette. La deuxième chose, c'est défiscaliser le travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut encourager les entreprises à créer de l'emploi. Comment on va les encourager? C'est en transférant le coût du travail sur de la TVA, sur la consommation, en transférant les charges du chômage sur de la création d'emplois. Il y a un véritable courage à avoir faire pour relancer l'économie. Et si on relance par la croissance, par l'investissement, par la croyance dans les Français, on va réduire le chômage, on va augmenter les bénéfices des entreprises, on va recréer de nouvelles recettes fiscales qui vont faire en sorte que le pays ira mieux. Mais c'est un grand bouleversement qu'il faut prendre, et je répète et je redis, intégrer une bonne fois pour toutes que il est plus agréable de payer des impôts en consommant qu'en travaillant. Et c'est le système français qu'il faut revoir.
Puisque tu parlais de la dette française, je regardais justement.
Ouais,
la dette française est détenue à 52% par les investisseurs étrangers, à 48% par les investisseurs français.
Mais banque, dans lequel il y a aussi des boîtes étrangères qui sont minoritaires.
Banque, assurance, et même les particuliers à 2-3% via
Oui, 2-3%.
Charles.
Les causes de notre marasme, on les connaît maintenant. C'est la pression fiscale excessive, les dépenses publiques excessives, qui décourage le travail, qui décourage l'entreprise et qui font émigrer beaucoup de gens à l'étranger. Voilà. Donc ça, on les connaît. Il y a d'autres grandes causes qui, pour le coup, sont plus au niveau européen, qui sont grosso modo contenues dans le fameux rapport Draghi que toutes les élites d'Europe ont lu et qui, en gros, pointent nos difficultés industrielles et le fait que... il s'agirait maintenant de se positionner sur les secteurs d'avenir très stratégiques, comme les fameux semi-conducteurs. Personne n'y comprend vraiment rien, mais enfin, en gros, c'est un machin indispensable pour fabriquer tout l'informatique du monde, que ce soit dans les avions ou dans les iPhones. Il y a certains domaines comme ça sur lesquels l'Europe peut se positionner, peut avoir un avantage sur ses rivaux chinois et américains, en gros. Donc, tout ça, on le sait, en fait. Je ne sais plus qui disait... qu'au fond, même à l'échelle individuelle, on sait ce qu'il faut faire. Ce qui est emmerdant, c'est de le faire. Au fond de nous, on sait ce qu'il faut faire pour notre bien-être personnel, pour notre beurre. Ce qui est emmerdant, c'est de le faire. Bon. Je pense qu'on est un peu comme ça en France, avec un monde politique qui est de plus en plus débranché de la réalité du pays, qui vit en autarcie. Donc là, on voit bien avec ce budget, le cornu, écrit par les socialistes, etc. On est vraiment dans un truc qui est très très loin de la France. Et vraisemblablement, rien ne va se passer avant le mois d'avril prochain. Il faut être lucide.
Peut-être après, même.
Voilà. L'élection.
Et résultat, il y a un manque d'entraînement. La France étant un pays très politique, où l'État prend beaucoup de place, etc., il y a une espèce de manque d'entraînement parce que on attend de voir. Voilà, on est dans une situation où on attend de voir. Moi, j'ai aucun espoir que rien ne décolle avant le mois d'avril.
Olivier, bonjour.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Salut technicien. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une crise sans précédent, là, avec les indicateurs qu'on vient de donner, dites-moi?
Ah mais totalement, et d'ailleurs je suis pas le seul à le penser, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un sondage Ipsos qui est sorti, il y a 91% des Français qui sont pessimistes sur l'avenir économique du pays. C'est juste incroyable. En fait, de tous les chiffres, j'aime bien regarder les chiffres, vous savez, mais les chiffres Banque de France, au moins on sait que c'est des vrais chiffres, et puis les différents indicateurs comme ça. On a des faillites d'entreprises, on a plus de 70, quasiment 70 000 faillites d'entreprises sur les deux derniers mois.
C'est un massacre.
Alors, on nous dit qu'on fait un appel d'air, on provoque de la consommation, on tue nos entreprises. Il y a même, je crois, c'est 68 ETI, des entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises, pareil, qui sont en faillite. Alors après, Macron nous essaie de nous envoyer de la poudre aux yeux avec, on a créé des millions d'entreprises. Non, en fait, ce qu'ils ont créé, c'est 96%, et les chiffres, c'est, je vous dis, c'est tout est détaillé, c'est des sources sûres, c'est des micro-entreprises. Donc, il n'y a pas d'employé ou un employé. Ouais.
C'est un auto-entrepreneur, quoi, tout seul. Mmh. Ouais.
Et encore, ils se sont occupés de les fiscaliser après.
Oui, bah non, mais ah, totalement.
Oui, ça a changé,
après, tous les micro-entrepreneurs que je connais, et je connais pas mal d'autres entrepreneurs, sont tous en train de pleurer par rapport à l'URSSAF, par rapport à tous les prélèvements qu'ils ont, et surtout après, par rapport au fait que s'ils arrêtent leur activité, ils ont une main devant et une main derrière. Ils ont
vous êtes, rien. Vous êtes dans quel secteur d'activité, vous, Olivier?
Pardon?
Vous êtes dans quel secteur d'activité?
Moi, je suis fonctionnaire. Donc, je suis tout à fait conscient pour dire que moi, je sais que je ne crée pas de richesse. Je suis une charge pour l'État et pour les Français. Par contre, je sais que c'est les entreprises qu'il faut absolument défendre parce que c'est eux qui créent la richesse du pays. Donc, vous voyez, d'un point de vue économique.
Oui, mais vous voyez, Olivier, le problème, c'est que là, M. Lecornu est en train de préparer le prochain budget qui sera le dernier budget Macron. Et ils sont déjà en train d'imaginer qu'ils vont raboter l'exonération sociale parce qu'il faut trouver l'argent. Hein, c'est toujours pareil. Oui. Donc, le MEDEF hurle en disant, non, le coût du travail
et les agents de l'État, ils veulent pas
alors pour faire exactement l'inverse il sera bien sûr dans l'impossibilité de baisser les impôts de production parce qu'on n'a plus d'argent, on va même sans doute encore inventer de nouvelles taxes donc les mois qui viennent à mon avis me semblent particulièrement tendus pour les chefs d'entreprise.
Vous savez Olivier, il y a deux façons de créer de l'impôt en fait, il y a soit créer une nouvelle taxe soit supprimer une aide. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut
créer des richesses aussi, hein.
Créer des richesses, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, là, ce qu'ils comprennent pas et ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre depuis le départ, c'est qu'en baissant la fiscalité, que ça soit pour les entreprises, pour les particuliers, ils vont recréer de la consommation qui fera rentrer.
C'est ce que Macron a fait au début. C'est ce que Macron a fait au début.
C'est plus ce qu'il fait aujourd'hui.
Mais la vraie boucle vertueuse, elle est là, c'est diminuer les taxes, diminuer les dépenses de l'État. Tout le monde n'arrête pas de le dire. Et en tout cas, ceux qui sont en place ne le font absolument pas. Au contraire, regardez le budget fonctionnement de l'État. C'est la plus grosse partie. Parce que ce qui coûte de l'argent, vraiment, notamment...
C'est le fonctionnement de l'État.
Alors, c'est le budget fonctionnement. Non. Et au niveau des dépenses sociales, c'est les retraites des fonctionnaires. Parce que le budget, en fait, des retraites des particuliers, il a l'équilibre. Le système, on peut dire ce qu'on veut. C'est le système des fonctionnaires qui coûte de l'argent. Vous voyez, je prêche pas pour ma paroisse.
Mais
faut être réaliste. Voilà, faut être réaliste.
On a plus de 100 milliards sur des agences d'État dont on pourrait très bien se priver.
Olivier,
et ça ne changerait pas la vie.
Olivier, je vous remercie d'avoir été avec nous.
Un mot sur l'immobilier. Tout ce qui se passe sur l'immobilier, c'est voulu. Aujourd'hui, on a fait en sorte que la rentabilité sur l'immobilier soit inférieure à la rentabilité en bourse. On a voulu faire un transfert. Alors, je ne sais pas si c'est téléguidé par des grandes forces au-dessus de nous, mais jusqu'à un certain moment, une certaine époque, la pierre rapportait plus que la bourse. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a tellement taxé l'immobilier, donc on a voulu transférer les investissements des Français et en bourse. Et en bourse, c'est qui? C'est les grandes entreprises du CAC 40.
Chômage, immobilier, inflation. Merci Macron. On va voir, est-ce qu'on tape dans les 100%? On est à 90%.
On est pas mal.
On est pas mal, effectivement. Allez, dans un instant, on va regarder ce qui se passe du côté de Raphaël Glucksmann avec une note confidentielle sur l'électorat qu'il doit viser. Est-ce qu'on doit vraiment crier au scandale politique? Vous venez en parler avec nous au 32-16, il est 11h-20.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Là, j'ai 3-4 réactions qui sont arrivées sur les réseaux sociaux, notamment sur notre WhatsApp. C'est Dominique qui lui dit, écoutez, moi j'ai quand même une bonne nouvelle. Le camping où je travaille est complet pour ce week-end. Donc ça, c'est une bonne chose. On a Corinne qui dit, on passe notre temps à nous dire qu'il n'y a pas d'argent magique. Par contre, là, on a le président de la République qui est en Afrique et on a 14 milliards pour le Kenya. On a Louis qui s'insurge aussi en disant il est temps de relancer le pays, sinon on court à la cata nationale. Voilà pour quelques réactions.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Je vous rappelle que tout à l'heure à 11h, on accueillera François Ruffin dans les GG, dans les grandes gueules. François Ruffin, le député, avec cette bande dessinée Picardie Splendor aux éditions Les Arènes, où il parle de sa Picardie qu'il a au cœur, de ceux qui font la Picardie, de ceux que l'on ne voit jamais dans les médias et qui sont les essentiels. C'est à travers plusieurs planches, plusieurs dessins. Voilà, sa Picardie au cœur. Lui, le candidat à l'élection présidentielle.
Pardon, il y a une info qui vient de tomber, qui va rassurer Mourad Boudjelal sur l'antivirus, puisque Matignon, à l'instant même, nous dit en cas d'épidémie, le stock de masques en France est suffisant pendant minimum 3 mois.
Ah ben voilà.
Tenir minimum 3 mois.
Donc, ce qui veut dire qu'ils envisagent qu'on porte des masques pendant 3 mois déjà.
Mourad,
voilà, on le sait.
Bah, tu peux aller en acheter aussi pour tenir 6.
J'irai en acheter pour tenir 6 mois.
Alors, maintenant, dans les GG, parlons d'une note confidentielle. Une note confidentielle qui embarrasse, paraît-il, Raphaël Glucksmann, le candidat Place Publique. Ce sont nos confrères du site Politico qui parlent de cette note, rédigée par un proche de Raphaël Glucksmann, dans laquelle la note cible les électeurs à conquérir.
Oui, c'est une étude d'une cinquantaine de pages, donc comme tu l'as dit, révélée par Politico, et qui montre effectivement que, enfin en tout cas c'est des recommandations pour le fondateur de Place Publique qui est candidat à l'élection présidentielle, Raphaël Glucksmann, quelles sont les cibles qu'il doit privilégier. Alors, on lui dit surtout de ne pas se focaliser sur certains électeurs, parmi lesquels les jeunes,
ça c'est assez, je suis assez surpris,
les CSP moins, ceux qui gagnent en dessous de 1 500 euros, qui vivent seuls avec des enfants en banlieue ou encore qui n'ont que le bac. En gros, ne pas s'intéresser à la France d'en bas. Si je reprends ce que disait Raffarin, la France d'en haut ou la France d'en bas. Alors bien sûr que ça va alimenter le procès en élitisme qui est instruit contre Raphaël Glucksmann, où en gros on reproche au candidat de la gauche d'être simplement le candidat des urbains du parisien ou des grands centres-villes et assez peu le candidat de tous ceux qui vivent en dehors des métropoles et qui ont plus de difficultés pour finir les fins de mois. Alors l'eurodéputé et fondateur de Place Publique a dit que cette note certes existait mais qu'il n'en tenait pas compte et qu'il allait s'adresser à tous les Français. Il faut voir aussi qu'il y a une instrumentalisation de la France insoumise. Ils sont en meute sur les réseaux sociaux pour déglinguer Glucksmann. Je pense que d'ailleurs pour la France insoumise, l'ennemi c'est plus Bardella, c'est Glucksmann. Alors c'est amusant parce que la France insoumise est également accusée de faire du clientélisme. Donc on leur reproche aussi de viser une certaine population française en prenant quelques thèmes. Donc chacun a ses cibles, mais la cible de Glucksmann, est-ce que ça vous surprend? Qu'est-ce que vous en pensez
de ces notes, Laura?
Non.
Pas choqué,
pas étonné non plus. Enfin, c'est Monsieur Glucksmann, c'est tout à fait le profil idéal pour les bobos parisiens, pour les bobos de Lyon, etc. On le sait, c'est malheureusement ça qui a, je trouve, tué la gauche. C'est que la gauche s'est complètement détachée des vrais ouvriers, de la ruralité, des familles monoparentales. Elle s'est enroulée dans cette espèce d'écologie au matcha et aux chaussures en écailles de saumon, qui ne parle pas du tout à la vraie gauche, celle d'avant, celle dont faisaient partie mes parents. Donc non, ça ne m'étonne pas. Il a fait son business plan, c'est une étude de marché. Il est parti chercher là où il y avait le plus de possibilités d'avoir deux voix. Je trouve ça effectivement un peu risible que LFI crie à l'injustice, crie à quelque chose d'horrible. Ils font exactement la même chose. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que LFI s'adresse à moi, par exemple. Et je l'entends, et c'est pas grave. Je suis pas leur cible électorale.
Charles.
Non, je suis pas surpris, mais de toute façon, ça rappelle évidemment Terra Nova, François Hollande, etc. Mais qui, de toute façon, pense un instant que Raphaël Glucksmann sera notre prochain président de la République?
Lui?
Léa Salamé, peut-être?
Mais non, je pense que lui-même.
Non, on sait pas. S'il est face à Bardella?
Je pense que même lui n'y croit pas, je vais te dire. Voilà.
Parce que c'est un homme de droite.
Je pense que lui-même est obligé de se remotiver tous les matins en disant, allez, maintenant que je suis lancé. Mais écoutez.
Est-il vraiment lancé d'ailleurs?
Mais c'est un candidat pour sous extasie. Enfin, je sais pas comment vous dire. Pour moi, c'est
ça. Matcha avec des chaussures en
cuir de saumon. C'est un
truc. Et qui mange du tofu.
Ah oui, c'est peut-être.
Et qui roule en vélib.
Peut-être que là, s'il fait une déambulation au Festival d'Avignon, va y avoir trois profs en télétravail qui vont le reconnaître et lui faire un petit clin d'œil entre deux pièces muettes. Mais sinon, franchement, faut être sérieux. Pour moi, c'est pas, voilà. Enfin, voilà, écoutez, peut-être que je dis n'importe quoi et que je serai tel Alain Minc ou Jacques Attali ayant mal prévu les choses.
Cette séquence sera rediffusée dans un an.
Cette séquence sera rediffusée.
Ousmane sera à l'Élysée.
Et que tu auras quitté la France, du coup. Voilà. Déjà, effectivement, j'aurais probablement quitté.
Tu seras en fuite. Tu seras en fuite parce qu'on te recherchera.
Et ensuite, bon, il n'est pas antipathique et tout, mais je...
Oui, mais restons sur cette note.
Oui, non, mais cette note. Alors, cette note, ce qu'elle dit bien, effectivement, c'est... C'était déjà le cas un peu avec Hollande, c'est le divorce entre la gauche et les classes populaires. Mais ça, c'est pas nouveau.
Non.
Et ça fait aussi que ils ne pourront pas venir chouiner quand le RN sera à 47% au premier tour. Parce que le RN, lui, n'a pas des notes internes comme ça sur les classes populaires qu'il n'entend pas forcément abandonner dans sa stratégie électorale. Moi, je trouve ça con, ce genre de stratégie. Mais en même temps, malheureusement, parfois, ça marche. Hollande a fait ça avec Terra Nova. Il y avait exactement la même note. C'était « Laissons tomber la France périphérique. De toute façon, on les a perdus. Concentrons-nous sur les bobos des grandes villes, etc. » Je sais que le jeune Attal, d'ailleurs, est tout à fait sur le même genre de stratégie.
Ouais, ils ciblent les mêmes.
Bah, d'ailleurs, c'est les mêmes. Faut arrêter. C'est exactement la même.
Glucksmann Attal, c'est la même chose.
Non, c'est la même chose. C'est la même sociologie.
Sauf que le problème, c'est que ça fait pas une majorité de Français, ça.
Non, mais leur sujet à tous, c'est le premier tour. Il faut, voilà, le sujet, c'est le premier tour.
Au deuxième tour, ils diront des barrages à Bardella. Et
mais comme Hollande, le sujet, c'était le premier tour. Donc c'est une stratégie de premier tour dans l'hypothèse d'un premier tour très éclaté entre les figures plus ou moins centrales.
Cette note confidentielle qui ne l'est plus, du coup, c'est un embarras pour Glucksmann? Parce que lui, il essaie justement de casser cette image, d'être le candidat des élites.
Non, je pense que c'est un mauvais procès qu'on lui fait. Je crois que ce genre de notes et d'études de marché, de clients potentiels,
ils le font tous.
Ça existe pour tout le monde, Front National, Rassemblement National inclus, voilà. Et il cherche son espace. Je pense que Glucksmann, il a compris que l'espace très à gauche, ben il était pris et que donc il avait très peu de chances de le récupérer.
Là, je pense que tu te trompes.
Et je crois qu'on lui a que ses conseillers, le McKinsey local, lui conseille un espace centre gauche, centre voilà, et
d'être
de se rapprocher du centre,
bien sûr,
d'aller plutôt vers le centre que d'aller vers la gauche Mélenchon, parce qu'il n'aura pas. C'est un électorat qui n'aura pas, je pense.
Laurent. Et l'électeur, ils veulent ici.
Alors, la seule chose, c'est que
les abonnés à Télérama.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est que si ce type doit. Si, oui, c'est ça, et à Mickey Magazine. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il aurait pu se priver du coût de cette note, parce que c'est d'une évidence absolue, quoi. J'espère que ça n'a pas été facturé, parce qu'on lui a expliqué que le feu, ça brûle et que l'eau, ça mouille.
Voilà.
Mais je crois que tous les partis, partis font une étude ce genre d'étude pour savoir quels sont leurs clients potentiels.
C'est que c'est instrumentalisé par son adversaire,
oui, Mélenchon. Oui, bien sûr.
En fait, Mélenchon veut faire passer Glucksmann pour le bourgeois de droite, finalement.
Et donc, il avait déjà attaqué sur son nom.
Le seul candidat qui représente.
Oui, parce que dans le centre gauche, il reste gauche.
Voilà. Mais par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, Mourad, c'est que je trouve que justement la vraie gauche, elle a pas de candidat. Je suis désolée.
Mélenchon.
Bah,
la vraie gauche, c'est quoi? Parce qu'il y a deux gauches, il y a toujours eu deux gauches.
Oui.
Bah, je te parle pas de la gauche révolutionnaire.
Il y a Olivier Faure qui pourrait partir et qui ferait l'unanimité.
Non, je te parle de la gauche.
Boris Vallaud qui a beaucoup plus.
Il y a Boris Vallaud
qui est Olivier Faure.
Tu as quand même la gauche ouvrière, les vrais gens, on va dire, en ruralité qui se battaient, etc. Moi, pour en avoir certains dans ma famille, ils me disent.
C'est RN.
Ça va partir au RN.
Mais c'est déjà parti au RN, pardon.
Oui, mais donc du coup, ça veut bien dire. Non, mais c'est pas pour ça que ce sont des adhérents à 100% RN.
Est-ce qu'ils pourraient revenir à gauche?
Je pense.
On va aller dans l'Ardèche, c'est Christophe qui veut réagir. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour tout le monde.
La note, c'est normal, c'est une étude de marché ou ça vous choque finalement?
Mais non, c'est une étude de marché, c'est exactement ce qui est préconisé depuis pas mal de temps. C'est une mobilisation de la vie politique, on revient à un clivage gauche-droite. Et lui veut incarner ce centre-gauche, tout simplement, qu'il y avait avant, qui était au Parti Socialiste.
Donc, mais oui, que Macron a siphonné.
Mais en 2017, Macron s'est présenté sur le même secteur. C'est les retraités riches, c'est les cadres supérieurs, c'est exactement ça. On sait très bien que le deuxième tour va se passer autour de 20%, et donc pour être au second tour, il faut faire ce travail d'analyse qui est parce qu'il est pas de gauche. Ces gens sont pas de gauche.
Non.
Mais justement, parce que vous êtes un électeur de gauche traditionnel, vous qui êtes VRP en Ardèche.
Moi, je suis un électeur de gauche de rupture.
Voilà, oui.
Donc, c'est-à-dire.
Ça ne veut pas dire que lui ne l'est pas.
C'est une autre variante.
C'est un autre variant.
Et la rupture pour vous, alors?
La rupture, aujourd'hui, elle est incarnée uniquement par la France insoumise.
Oui.
Le Parti communiste, pourquoi pas, je ne sais pas ce qu'ils vont décider, mais c'est un programme de rupture avec ce système capitaliste tel qu'il est aujourd'hui.
D'accord.
On est sur...
Oui, vous êtes loin de Glucksmann, quoi.
Ah oui.
Ah mais moi, Glucksmann, que ce soit Gabriel Attal ou Macron, pour moi, c'est les mêmes.
Ruffin peut l'incarner ?
Non, pas du tout.
Ah bon, pourquoi ?
C'est pas sympa, il arrive.
Bah, c'est très bien qu'il arrive. Mais non.
Il arrive ici dans les grandes gueules.
Non, mais il vous écoute en plus, je le vois, il est à 10 mètres de là, il vous écoute, vous qui êtes pour une gauche de rupture, Ruffin ne l'incarne pas.
Bah, je trouve qu'il parle pas à toute la population. Souvent, Ruffin, il dit il y a les tours, il y a les bourgs. Ça, c'est son. Mais nous, moi qui habite vraiment en Ardèche profonde, je peux lui dire que dans les bourgs, il y a des tours.
Mais vous croyez que Mélenchon, il parle à toute la population ?
Les problèmes qui sont en Seine-Saint-Denis sont exactement les mêmes qu'on peut avoir au fin fond des campagnes, en réalité. C'est le manque de services publics, cette difficulté à se loger. Tous ces problèmes-là sont, en réalité, la différence entre M. Ruffin.
On entend les logements sociaux que ça va s'arranger.
Hein. Bah Christophe, justement, ça va être le thème de notre discussion avec François Ruffin. Merci. Il arrive dans un instant direct sur RMC et RMC Story. Merci.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.